Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc aujourd'hui le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, délégué général de La République En Marche, Christophe Castaner.
Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL. On va parler des gros dossiers, SNCF, immigration. Mais d'abord, petite question, ça fait combien de temps que vous faites de la politique, Christophe Castaner?
Moi, je suis rentré au Parti Socialiste, par et pour Michel Rocard, ça doit être en 1986.
Ça fait un bail.
Ça fait quelques années.
Hier soir, vous avez été consacré révélation politique de l'année par le prix du
trombinoscope.
Ben oui, ça fait quoi de recevoir ce prix qui a été donné par ailleurs dans d'autres catégories à des petits bleus. Allez, vous êtes la révélation. Après tant d'années de politique.
Oui, enfin, de toute façon, ce n'était pas un objectif, mais ça fait plaisir d'avoir cette reconnaissance-là avec un style particulier qui m'est propre de tenter de parler en français aux Français. Voilà, donc
parler aux Français en français, ça veut dire quoi? Parce que là, pour le coup, c'est pas forcément...
Garder un discours simple, rester moi-même, authentique, et tenter de ne pas changer dans les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui.
Vous sentez une condescendance, parfois, du personnel politique parisien?
Oui, ça peut arriver. Vous savez, je suis un homme de la province. Moi, j'ai passé mon bac à Manosque, en candidat libre un jour. J'ai un parcours personnel qui est propre, qui m'est particulier. Et c'est vrai que ça m'est arrivé de ressentir un peu ces remarques sur la pointe d'accent. Voilà, mais j'assume parfaitement.
Allez, dernière petite question. Vous vouliez faire ce métier longtemps?
Non, mais à l'âge que j'ai, je me demande si je pourrais faire autre chose. Non, plus sérieusement, c'est pas un métier, c'est un engagement. J'ai eu la chance de rencontrer Emmanuel Macron très tôt quand il a décidé de s'engager au niveau national. Je vis cette expérience extraordinaire le temps qu'elle durera.
Et de défendre le gouvernement, coûte que coûte, quoi qu'il en soit. Le rapport Spinetta a lancé la bataille du rail hier, Christophe Castaner. Il suggère des recettes radicales pour redresser la SNCF qui perd 3 milliards d'euros par an. Une bombe contre le service public, lit-on ce matin dans l'Humanité. Il ne risque pas de prendre la poussière et d'être rangé sur une étagère, ce rapport Spinetta.
Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on continue comme avant. On a aujourd'hui 10,5 milliards d'euros d'argent public qui sont mis dans la SNCF et on a un constat, le rapport Spinetta parle de mots graves, il parle de situations préoccupantes, de performances insuffisantes. Donc on continue comme avant? Non. Je pense qu'on a un constat qui montre qu'il faut changer, sinon on va dans le mur. On a une dette qui est phénoménale, 50 milliards d'euros de dette. On a des déficits structurels, on a des choix qui ont été faits sur des grandes infrastructures en négligeant les trains du quotidien, ceux que les Français utilisent tous les jours. Je pense qu'il faut assumer de prendre des décisions.
Donc vous allez vous en inspirer. Les notions, il n'empêche, les notions d'aménagement du territoire, par exemple, les notions de défense du service public, elles sont absentes des propositions Spinetta. Ces deux notions-là, c'est un luxe que l'État, aujourd'hui, pour la SNCF, ne peut plus s'offrir.
Ça n'est pas notre position. D'ailleurs, le Premier ministre l'a dit dès hier, on discutera avec les régions. Et cette dimension d'aménagement du territoire, elle concerne évidemment les régions qui sont opératrices de transport. Et c'est avec elles qu'on décidera ce qu'il faut maintenir, ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut changer.
C'est-à-dire que, contrairement par exemple à ce que suggère le rapport, de supprimer toutes les petites lignes pas rentables et de les confier à la responsabilité de la région, vous dites que ça ne sera pas forcément ce qu'on va faire.
Mais on va discuter avec les régions. Ce sont les régions qui aujourd'hui sont organisatrices de transport sur le ferroviaire. Et donc on va discuter avec elles. Ce que dit le rapport Spinetta, c'est que 16% des moyens sont concentrés sur 2% des petites lignes. Mais évidemment qu'il est beaucoup plus cher de maintenir un service public dans la ruralité, en zone de montagne, dans la vallée de la Roya, du côté de Nice, que en volume, quand vous êtes à proximité même de Nice. Et donc je pense qu'il faut intégrer que le service public a un coût différent selon les territoires. Mais si vous avez des trains qui continuent à circuler alors qu'ils sont pleins à 2%, 3%, 5%, il faut s'interroger. C'est pas le maintien du service public en soi, c'est la qualité du service public. Mais si en parallèle au fait que vous ayez des trains, on n'entretient pas comme on l'a fait depuis des années, le réseau lui-même. On a des endroits en France où les trains doivent baisser leur vitesse à 20 km/h parce que le réseau n'est pas entretenu. Il faut qu'on assume de se poser des questions. Le constat est mauvais. On prend des décisions. Il faudra être courageux.
Il faudra faire des choix douloureux.
Sur le débat et ouvrir avec les cheminots de la SNCF.
Alors,
le
fin
débat
du statut
sur
des
le
cheminots,
statut, par exemple.
Plan de départ volontaire, transformation de la SNCF en société anonyme, transfert obligatoire des salariés vers les futurs concurrents privés s'ils reprennent une ligne. Jean-Cyril Spinetta a dit hier aux cheminots de se montrer responsables. Ça veut dire quoi ?
Je crois qu'aujourd'hui, on doit interroger les cheminots si la SNCF, je vous ai évoqué sa dette de 50 milliards, si l'État, c'est-à-dire si les Français doivent assumer cette dette-là, il est important que les cheminots puissent accepter aussi que si on recrute demain de nouveaux collaborateurs à la SNCF,
ils ne bénéficient pas... Donc ils doivent payer pour la dette de l'État, de la SNCF,
Madame Martichoux, est-ce que vous pensez que c'est payé que de considérer que les nouveaux entrants ne doivent pas bénéficier d'une retraite moyenne à 57,5 ans? Aujourd'hui, c'est le cas. Chaque agent de la SNCF a une retraite moyenne de 57,5 ans, 57 ans et demi. Je pense que ça n'est pas illogique de dire si demain nous devions embaucher de nouveaux collaborateurs à la SNCF, ils pourraient avoir une retraite qui soit conforme à celle des Français.
Les cheminots actuellement embauchés ne seront pas touchés par une possible réforme du statut. Hein, c'est ce que propose effectivement M. Spinetta.
Ceux qui sont,
ça concernerait
ceux qui sont
donc le statut des cheminots s'éteindrait dans une trentaine d'années. C'est ça. Ce sera la fin du statut des cheminots.
De toute façon, ça n'est pas l'essentiel de la réforme. Ce qui compte, c'est des choix politiques.
Non, mais c'est un tabou. C'est un tabou auquel vous touchez, effectivement. Et vous disiez, vous voyez la retraite,
il
bénéficie d'une retraite
bien,
très, très, très favorable. Bon, c'est une façon un petit peu de jeter en pâture ses privilèges et prendre l'opinion
raison.
À témoin.
Non, vous avez raison. Si on doit considérer que notre société doit maintenir des privilèges parce qu'il y a des tabous, et je reprends volontiers vos mots, je me dis qu'au fond, il faut changer d'époque. Que les tabous et les privilèges sont des sujets qu'il faut oser assumer, mettre sur la table.
Il faut faire tout en même temps, Christophe Castaner. Il n'y a pas un excès de confiance du gouvernement qui lance des chantiers, c'est vrai, sensibles, fonctionnaires, assurance chômage, SNCF. Vous êtes sûr que c'est la bonne méthode ?
Est-ce que la bonne méthode, c'est de ne rien faire, comme pour la SNCF, c'est-à-dire d'attendre chaque année d'empiler des milliards de dettes supplémentaires, sachant qu'à un moment donné, on va dans le mur.
Là, en un semestre, vous lancez tous ces chantiers compliqués en même temps.
On a été élu et le président Emmanuel Macron a été élu pour faire des choses, pour transformer ce pays, pas pour conserver des situations acquises qui ne marchent pas. Mais attention, quand on assume d'ouvrir le chantier de la SNCF, c'est pas pour dire que la SNCF pose problème. Au contraire, la SNCF est un formidable service public. Mais qui va dans le mur si on ne fait rien? Donc il faut assumer de mettre sur la table un certain nombre de problèmes.
Mais vous assumez de faire une politique qui, décidément en matière économique, reste colorée de façon... libéral. Ça n'est toujours pas équilibré.
Mais sauver la SNCF, qui est un service public,
vos électeurs
n'est pas
de gauche,
libéral.
Comment ils peuvent y trouver leur compte ?
Parce que je crois que les électeurs de gauche savent l'importance du service public de la SNCF. Et soit on ferme les yeux et on ne fait rien, et on tue le service public. Soit au contraire, on assume de considérer que la SNCF est un grand service public.
Vous la trouvez équilibrée, la politique économique du gouvernement ?
Mais elle est équilibrée quand elle permet d'accompagner les créations d'emplois. On pourrait évoquer aussi quelques bonnes nouvelles, ces chiffres de l'INSEE qui hier montrent la progression spectaculaire de l'emploi en France sur l'année écoulée. C'est plutôt aussi des bonnes nouvelles. Et en cela, c'est très équilibré. Quand il y a un chômeur qui trouve un emploi, je me dis que finalement, cette politique, elle n'est pas mauvaise.
Christophe Castaner, Alba Ventura, tout à l'heure, disait dans son éditorial consacré à Gérald Darmanin, elle citait un député de La République En Marche. En ce moment, nous avons un problème sur le sujet du pouvoir d'achat. Et le ministre qui devrait être sur tous les plateaux de télé et de radio pour faire de la pédagogie, c'est Gérald Darmanin. Et il n'est pas là. Gérald Darmanin qui a été menacé par une seconde plainte. Marlène Schiappa disait hier, ce n'est agréable pour personne. Bon, il y a un malaise dans la majorité, il y a un malaise au gouvernement.
Non mais attendez, c'est désagréable pour personne, à commencer par Gérald Darmanin.
C'est désagréable ou...
Non mais à commencer par Gérald Darmanin qu'on jette en pâture parce qu'il a fait l'objet d'une dénonciation. Point. Seulement d'une dénonciation. Il n'y a même pas d'enquête sur ce sujet. Et parce qu'il y aurait une dénonciation, on aurait besoin d'en parler dans chacune de nos émissions. Laissons-le faire son travail. Et je vous assure que Gérald Darmanin est au boulot, qu'à l'heure qu'il est, il est au boulot, qu'il le sera tout ce week-end et qu'il continue à faire son travail.
Non, mais on en parle parce que vous ne pensez pas que ça frappe l'opinion et qu'effectivement, il y a une distorsion entre cette grande campagne soutenue par le gouvernement de défense des femmes qui peuvent se sentir menacées et le fait qu'il y ait, en l'occurrence, là, deux ministres importants du gouvernement qui sont, à tort ou à raison, mis en cause.
Mais attendez, il y a une mise en cause pour l'un, il y a une décision judiciaire de non-lieu pour l'autre. Est-ce que les Français ne seraient pas choqués qu'aujourd'hui, une simple dénonciation, et je ne mets pas en cause la dénonciation, elle est réelle, elle a été faite, qu'une simple dénonciation aboutisse à une chasse à l'homme ? ou à une chasse à la femme, de toute façon. Aujourd'hui, on n'est pas dans un système de dénonciation, on est dans un système de justice.
C'est une chasse à l'homme ? Et les victimes
Bien sûr, c'est une simple dénonciation amenée à dire telle personne doit quitter ses activités, qu'il soit journaliste ou qu'il soit politique, je pense que ce serait une chasse à l'homme. La démocratie, elle s'appuie sur la justice. Laissons travailler la justice. Moi, ce que je veux garantir, c'est qu'on soit ministre ou concitoyen lambda, la justice doit travailler de la même façon. Et s'il y a une mise en examen, là, il y a une exception pour les ministres. Elle a été posée par Édouard Philippe. Il devra quitter le gouvernement.
Donc, s'il y a d'autres plaintes, la jurisprudence restera évidemment la même. C'est ce que vous dites.
Mais la jurisprudence, c'est que si vous avez une première décision de justice, qui est une mise en examen dont je rappelle qu'elle ne vaut pas condamnation, le Premier ministre a un niveau d'exigence tel que les ministres devront quitter le gouvernement.
Qu'est-ce que vous avez lancé comme initiative, Christophe Castaner, en tant que patron de La République En Marche, après les deux défaites électorales législatives partielles récemment? Qu'est-ce que ça a allumé comme petit warning, comme petit avertissement à vous, le patron du parti?
Moi, l'essentiel de mon travail à La République En Marche, c'est la structuration de La République En Marche partout sur les territoires. Et donc, j'ai réuni la semaine dernière 120 coordinateurs locaux, nos animateurs fédéraux.
Ça veut dire quoi? Il faut trouver des ancrages locaux qu'on n'a pas encore.
Il faut construire, tout simplement.
Que la campagne présidentielle n'a pas permis, en fait, de construire.
Mais parce que la campagne présidentielle a permis l'élection d'un homme, mais au sommet de l'État. Nous sommes un mouvement politique nouveau qui a un an. Et donc, en un an, c'est pas en claquant des doigts qu'on arrive à structurer tout le maillage partout en France. Donc moi, l'essentiel de mon travail, l'année 2018, sera consacré à cette structuration au plus près des habitants, pour partir des usages, des envies, des volontés des habitants, et que chaque personne qui adhère à La République En Marche, en ce moment, j'ai 100 personnes par jour qui nous rejoignent en moyenne, puisse trouver une utilité dans son engagement.
Qui rejoignent, c'est-à-dire
Qui trouvent une utilité, qui vont pousser une action, qu'on va accompagner, une action citoyenne dans une petite commune pour aider au numérique. Au fond, le sentiment d'être utile, mais pas seulement d'être dans une logique d'appareil politique, de conquête électorale, mais d'être utile, c'est ça aussi l'engagement à La République En Marche.
À ce stade, vous ne sentez aucune déception sur le terrain?
Mais bien sûr.
Mais
bien sûr qu'il y a des tensions, bien sûr qu'il y a des interrogations, il faut les entendre. Je ne suis pas sourd, je ne l'ai jamais été. J'entends cela, j'argumente, je défends. Et quand il faut changer notre structuration, vu que la question se pose au délégué général, nous devrons la changer.
Merci Christophe Castaner.
Merci
d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
50 milliards d'euros de dette à la SNCF, on ne peut pas rester sans rien faire aujourd'hui. On doit aussi interroger les cheminots sur l'avenir de leur entreprise. Les tabous et les privilèges doivent être remis en cause. Le président Macron a été élu pour agir. C'est ce que vient de nous dire Christophe Castaner, délégué général de La République En Marche et secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. L'entretien est à retrouver dans son intégralité sur leur site rtl.fr.